L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous. Bonjour Tariq.
Bonjour.
Je suis avec Tariq Krim. Tariq, on se connaît depuis très longtemps. Je ne sais pas exactement depuis quand, mais pas mal de temps. Mais c'est la petite sphère du web en France, en tout cas. Tu as été le fondateur de NetVibes, qui à l'époque était la boîte que tout le monde utilisait, qui permettait de lire ses flux RSS, qui faisait sa nouvelle homepage finalement. Et aujourd'hui, on va parler de Slow Web, qui est une tendance qui est un peu méconnue, je pense. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense slow web, en tout cas moi quand je pense slow web je pense déconnexion, alors qu'en fait c'est pas de la déconnexion le slow web. Donc comment tu définirais le slow web, pour toi c'est quoi?
En fait le slow web c'est un peu l'équivalent du bio pour la nourriture. C'est en partie de cette idée que tu sais, il y a ce mouvement qui s'appelle le slow food movement qui a démarré en Italie il y a une trentaine d'années, qui était un mouvement assez intéressant parce que ça s'est fait déjà en contre le fast-food et l'idée qu'il faille manger très vite des produits processés qui sont pas toujours très sains pour nous. Et c'est un mouvement qui à la fois explique comment on fait les produits, comment on les cuisine et puis surtout nous a réappris la convivialité, l'art de manger ensemble. Et l'idée en fait, c'est de dire que finalement la technologie c'est un peu comme la nourriture, hein. Tu es ce que tu manges. Mmh. Et aujourd'hui on est aussi ce qu'on absorbe, hein, toutes ces informations qu'on a sur son téléphone du matin au soir. Et donc se poser la question, est-ce qu'on peut construire une interaction, une vision technologique qui soit beaucoup plus saine?
Alors c'est marrant quand même parce que toi t'es, on peut dire ça, un mec du web, enfin tu vois... un gros mec du web, c'est-à-dire que tu étais toujours dans les startups, etc. Donc, remettre en cause le modèle, c'est un peu marrant que c'est toi qui le fasses. En général, c'est plutôt des gens qui comprennent pas très bien Internet qui font ça. Mais c'est vrai qu'il y a un gros mouvement. On a vu Larry Page qui critique l'AI, donc l'intelligence artificielle, ou l'équivalent chez Elon Musk, etc. Donc, il y a quand même un défi, je trouve, qui est lancé par les gens qui connaissent bien le web sur la manière dont il est en train de se construire.
Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai la chance de vivre l'Internet d'avant le web, au moment du web et puis après le web. Et c'est vrai que depuis 10 ans, là, il y a une espèce d'accélération incroyable et on a du mal à retrouver ses marques. Et finalement, le slow web ou ce qu'on appelait la slow tech... cette idée de revenir à une vision plus éthique de l'informatique, c'est finalement un retour aux sources. Au départ, on ne parlait pas de réseaux sociaux, on parlait de communautés en ligne. Il y avait vraiment cette idée de mettre l'humain au centre, l'utilisateur. Moi, ça a toujours été avec NetVibes, avec JolyClub, avec toutes les boîtes que j'ai faites, il y avait toujours... Tous les produits, il n'y avait pas de logo sur la page. Donc, c'était vraiment un produit qui appartenait à l'utilisateur. Toutes les user interfaces étaient pensées pour limiter les interactions. Il y avait... pas de flash, pas de notification. On essayait et surtout de mettre l'utilisateur au centre de sa vie numérique. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que avec les réseaux sociaux, mais aussi avec la consolidation à ce qu'on appelle maintenant l'oligarchie numérique, hein, les GAFA, que l'utilisateur est un peu en bout de chaîne. C'est pas lui le plus important. C'est soit l'annonceur, soit l'algorithme. Et donc, cette idée, finalement, c'est de revenir un peu à l'idée d'Internet des débuts.
Et justement, quand on parlait un petit peu avant, tu me parlais de la relation symbiotique qu'on avait avec les réseaux sociaux, enfin, ou les GAFA typiquement. Est-ce que tu peux expliciter ça?
Oui, je pense que, en fait, avant l'informatique, avant l'intelligence artificielle, on avait ce qu'on appelait la cybernétique, Norbert Wiener. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que les deux fondateurs de l'intelligence artificielle n'aimaient pas du tout. Il paraît que Norbert Wiener était pas très sympa dans les conférences. Et donc, ils ont dit, on va faire notre propre truc. Et pour pas l'inviter, on va inventer un nouveau terme. Donc, ils ont inventé le terme d'intelligence artificielle.
Qui est pas nouveau, hein. C'est
un vieux terme. Donc là, on est dans les années 50. Et à l'époque, en fait, toute la cybernétique est liée autour de ce qu'on appelait la rétroaction en français, feedback loop en anglais. Cette idée qu'on avait une relation, tu pouvais envoyer un message à la machine qui opérait à distance. Et Norbert Wiener s'est dit, mais un jour, peut-être que ce sera l'inverse, c'est-à-dire que la machine va pouvoir contrôler les humains avec le même processus. Et aujourd'hui, quand on regarde des applications, que ce soit Instagram, qui décide, par exemple, de garder certains likes et te les mettre un peu plus tard pour que tu aies tout le temps, en fait, des likes. Si t'as 50 likes, si on te les met tout au long de la journée, t'as l'impression d'être aimé.
Ça génère de la dopamine, ouais, bien sûr.
Exactement, ça crée une addiction. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que des algorithmes non seulement analysent ça, mais avec l'intelligence artificielle, on optimise ça. Et d'un certain côté, on a besoin de ces applications parce qu'elles nous font du bien, mais en même temps, ces applications ont besoin de nous pour apprendre constamment de nous. Et donc, c'est vraiment une relation symbiotique.
Et alors, c'est quoi pourquoi finalement pousser ce mouvement de slow web? C'est quoi le problème?
Je pense qu'il y a toujours plusieurs problèmes. Il y a pas. Le premier, c'est qu'on a. Je pense qu'on a perdu le contrôle de notre vie numérique déjà. Si tu viens à ne serait-ce qu'il y a 10, 15 ans, c'est avant l'iPhone, ce qui paraît être une.
Mémoire
assez lointaine, mais on dit ça, mais en même temps,
il y a 10 ans.
On a du mal à imaginer, à se rappeler ce que c'était avant. Cette idée d'avoir tout à un endroit. Le monde, en fait, dans lequel on vivait était assez simple. On avait ces fichiers, ces MP3, on avait toute notre vie numérique dans notre Mac. C'était la fameuse iLife de Steve Jobs. Et quand l'iPhone est arrivé, quand le cloud est arrivé, on a décidé que c'était d'autres sociétés qui allaient gérer notre espace privé. Dropbox, Google, Facebook. Donc finalement, nos fichiers, nos musiques, nos conversations, nos relations entre les gens, tout ça a été géré par des tiers et a commencé à être manipulé, algorithmisé. Et donc on a totalement perdu le contrôle. Bon, on s'en rend compte à chaque fois quand on veut passer d'un iPhone à Android, on se dit en fait, comment je fais pour déplacer mes fichiers? Et puis surtout, cette idée qu'on n'a plus à la fois donc, le contrôle de ces fichiers, mais aussi la possibilité de choisir la manière dont on veut interagir avec le monde. Je m'explique. Avant, j'avais par exemple mes flux RSS, j'étais très organisé, je pouvais faire des choix. Aujourd'hui, tout ce qu'on t'offre a été choisi par un tiers. Donc en fait, tu te lèves le matin, si je te montre une photo de quelqu'un que tu peux pas blairer, qui parle d'un sujet que tu peux pas blairer, je t'ai ruiné la journée. Et ça, en fait, c'est fait plutôt exprès parce qu'on a envie de te vendre certaines publicités quand tu es dans un certain état, quand tu es déprimé, tu as envie de voyager, tu as envie d'acheter les choses qui te font du bien. Quand tu es bien avec toi-même et que tu es content, tu as juste envie d'aller voir tes potes et t'es beaucoup moins influençable. Et donc, c'est vrai que ce contrôle que l'on a sur notre vie, sur notre quotidien et sur nos données a été totalement privatisé ou en tout cas délégué à des tiers.
Il y a un autre exemple aussi. Toi, je sais que t'adores la musique, mais les playlists Spotify, typiquement.
Exactement.
Les playlists Spotify, en fait, ils se sont rendus compte que ce qui était malin, c'est de mettre à l'intérieur des musiques que tu connaissais déjà. Et c'est ça qui fait que tu les écoutes. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux que tu découvres, il y a des morceaux que tu connais. Et en fait, ils font en sorte que ce soit des choses que tu aimes, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai discuté avec d'autres personnes qui étaient plus jeunes que moi, c'est que finalement, ils font même plus trop attention à qui est l'auteur. Ils se souviennent du son, mais c'est finalement devenu du fast-food, quoi. Enfin, pour le coup.
Totalement. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes Spotify, mais c'est aussi vrai avec Netflix, c'est aussi vrai finalement avec Facebook, c'est que Spotify va t'envoyer, quand tu fais du jogging, vers des playlists qui génèrent moins de droits, donc moins de revenus à payer. Netflix t'envoie surtout sur son catalogue. Et
bien
puis,
sûr.
C'est sa manière. Facebook a fait la même chose. Quand il t'envoie des fake news, ce qu'il a fait pendant, malheureusement, ces deux dernières années, c'était surtout parce que ça rapportait, ça avait des rapports ratios, retour sur investissement assez forts. Donc, d'une certaine manière, l'algorithme n'est jamais neutre. Il est toujours orienté. Et c'est vrai que ce que tu disais sur les playlists, c'est intéressant. C'est que nous, on a vécu avec un historique dans nos vies. On a commencé, on a eu notre premier album, notre premier vinyle, notre premier groupe dont on était fan. Et on a construit, c'est un parcours initiatique. Et là, c'est vrai qu'avec la technologie, soudain, on te dit, t'as des milliers de films, t'as tout. En fait, quand tu as accès à tout, tu as d'une certaine manière un peu accès à rien.
Bien sûr. Mais c'est pour ça que les gens, maintenant, la valeur, elle est dans l'expérience dans la vraie vie. Tu vas au concert, tu vas voir un film au cinéma.
Ouais, je pense qu'on a, tu vois, on parle des playlists automatiques, mais quand tu écoutes certains DJ, tu te rends compte qu'en fait, la curation humaine est toujours quelque chose pertinent.
Alors, du coup, pour revenir au slow web, donc c'est une vision qui est assez philosophique, hein, finalement, parce qu'il n'y a pas, enfin, le problème de l'éthique, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais, enfin, c'est-à-dire que c'est forcément un point de vue, c'est-à-dire que tu peux, normalement, dans l'éthique, tu peux défendre de manière assez pertinente les deux côtés, logiquement.
Ce que disait, c'est le philosophe Jacques Ellul qui disait que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ambivalente, il avait sûrement raison, mais quand tu pense à l'éthique, tu as quand même un certain nombre de choses. La première, c'est que avant, quand tu avais ton PC, tu prenais un fichier, tu le déplaçais, par exemple, d'un disque dur vers une clé USB, l'action que tu faisais était exactement l'action que tu avais. Aujourd'hui, quand tu likes sur une image sur Facebook ou Instagram, toi, tu te dis, bon, j'ai liké une photo, c'est bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la photo, il y a un chien donc, qui a été analysé par une IA.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, soudain, on va te mettre dans une nouvelle segmentation. Si tu as liké telle personne, donc on va te montrer plus de choses. Donc, en fait, il y a tout un ensemble de choses invisibles, totalement opaques, en fait, pour l'utilisateur, qui se passent derrière et qui vont transformer son expérience sans qu'il le sache.
Je pense que ça, c'est un truc que les gens ne savent pas nécessairement. Instagram, c'est la plus grosse machine qui nourrit l'intelligence artificielle de Facebook. Hein,
absolument.
En fonction de ce que tu likes et des commentaires. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu mets une photo et que tu écris quelque chose dessous, en fait, c'est analysé, évidemment, par de l'intelligence artificielle.
Absolument,
donc, ça nourrit des robots, finalement.
Et puis, ils ont besoin de ça. En fait, on alimente aujourd'hui l'apprentissage des intelligences artificielles avec plus de photos. Ils ont besoin de nouveaux matériaux.
Les robots ont besoin d'apprendre. Donc, tu apprends.
Exactement.
Bien sûr.
On est devenu en fait du pet food pour AI.
Et alors du coup, c'est quoi la solution alternative? Parce que je vois le problème. Je ne sais pas si tout le monde le saisit. Je pense que ça, c'est quand même assez clair. Mais c'est quoi la solution alternative? Parce que finalement, aujourd'hui, le web fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, si on rajoute un. Et puis après, on peut partir en Chine où le fonctionnement est un peu différent. Mais tu as quand même des très gros acteurs en Chine. Donc ça, bon, c'est des acteurs qui globalement possèdent l'intégralité des données, qui possèdent le web. On sait que 60% des données en Europe partent aux États-Unis par ces biais-là. Donc tout ça, c'est relativement clair et partagé, enfin plus ou moins quand on se renseigne un petit peu. Mais c'est quoi la solution alternative du coup?
Bah, tu as plusieurs casquettes. Bah, si je prends ma casquette d'entrepreneur, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir continuer à créer des choses nouvelles sans être limité. C'est finalement le problème qu'on a avec l'iPhone, le problème qu'on a avec les terms of service des différentes GAFA, c'est qu'on te dit, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, sauf, et on te sort une liste incroyable. C'est, si tu es sur iPhone, à une époque, tu ne pouvais pas concurrencer les applications standard d'Apple. Après, on te disait, à chaque fois qu'on paye, il faut que tu donnes 30% de ce que tu as gagné durement à Apple. Pareil avec Google, avec les systèmes de référencement, les API. Si tu n'as pas fait tel truc, on t'enlève. Donc, ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut recréer à la fois des nouvelles possibilités. Quand ils pensent, si on n'avait pas bloqué Microsoft sur l'histoire du browser à l'époque, la Commission européenne, Google n'aurait jamais existé. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve les moyens de permettre à un autre écosystème d'exister. Et quand je vois ce qui se passe dans le food, parce que tu as les énormes boîtes qui te font du packaging en plus, tu sais, on te montre du cornflakes, on te met une espèce de packaging un peu artisan pour te faire croire que c'est comme si c'était du bio, mais en fait c'est le même truc dégueu avec les mêmes je sais pas quoi là, tous ces numéros ésotériques. Il faut qu'on arrive à permettre à un écosystème indépendant, peut-être aussi plus petit, parce que c'est vrai que le modèle aujourd'hui de la tech, c'est il faut être énorme, c'est l'unicorne, c'est-à-dire si t'es pas une unicorne, t'as tout raté. Alors qu'en fait, la plupart des boîtes, d'ailleurs aussi en France, beaucoup de boîtes qui sont qu'on veut promettre à devenir des tailles incroyables, sont en fait des boîtes indépendantes. Et le fait de faire une société qui fait des produits bien fait, avec la technologie éthique, avec un modèle sustainable, c'est pas
mais,
si mal.
Mais l'AI, c'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que tes recherches sur Google soient ciblées en fonction de qui tu es, ça peut être utile. Mais sans, donc l'IA c'est pas forcément toujours mauvais, mais pour revenir, mais par exemple il y a Quant, donc un moteur de recherche qui est sans AI, donc il y a pas d'intelligence artificielle derrière, ça décolle, les gens l'utilisent pas, ils restent sur Google aujourd'hui.
Je pense que de toute façon il faut inventer le futur. C'est à chaque fois qu'on a voulu refaire le passé aujourd'hui, ça marche pas. Le problème c'est qu'au-delà du moteur de recherche, je pense que c'est simple, on a une vie assez simple, on a une vie culturelle, donc on veut avoir une relation à sa musique, à sa photo, ses vidéos, on a une relation sociale, on va avoir un système de chat où t'es pas en permanence épié, écouté, t'as ton travail, t'as ta productivité, mais t'as aussi le fait que la manière dont on vend les produits aujourd'hui, on est dans une logique exclusivement d'optimisation. Toi, on te dit, faut que tu vas faire plus.
Ça, c'est
plus,
la société
plus,
de manière générale.
Oui, mais aujourd'hui, toutes les applications iPhone, c'est tu vas pouvoir plus. Tu vas. Même quand tu dors, tu bosses en fait maintenant.
Tu optimises ton sommeil.
Tu optimises ton sommeil. Donc en fait, on est rentré dans une espèce de logique complètement folle et on a du mal à en sortir. Je pense que déjà, nous, on va pas donner nos âges ici, mais on n'est plus des teenagers. Donc, si tu veux, le modèle Snapchat, c'est un modèle qui peut fonctionner pour une population, mais je pense que l'internet ne doit pas être fait pour qu'une seule population. On ne doit pas transformer tous les gens en teenagers sous prétexte qu'il faut adopter cette modernité.
Cette idée dont tu parles d'optimisation du temps, etc., de productivité. C'est pas forcément lié au digital. Le digital, il s'est construit sur une tendance qui est plus générale, qui est liée peut-être à un système capitaliste, ou j'en sais rien, je suis pas anticapitaliste, mais.
Mais prends le mail. On a connu une époque où on n'avait pas de mail. Aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu te lèves le matin. Alors, bon, comme tu le sais, j'ai arrêté de lire mes mails depuis 2 ans. J'ai arrêté complètement l'email pendant 1 an et demi et je m'y remets à petite dose, mais c'est une sorte de bureaucratie qu'on a construite. T'as rien fait, tu te lèves et on te demande déjà, quelqu'un d'autre a pris le contrôle de ta vie, t'as des milliards de choses. Et non seulement t'as cette bureaucratie, mais aujourd'hui, on te dit, en fait, il faut que tu sois en inbox zéro. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'il faudrait pas trouver des nouvelles manières de pallier à ça, de créer des signaux plus forts, moins de bruit? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des applications que l'on a créent du bruit aussi parce qu'elles ont besoin d'exister. Tu vois, si tu es une app inconnue sur l'iPhone et que tu as eu la chance d'être installée sur ton iPhone, elle va essayer de se mettre à jour en permanence parce que c'est une manière marketing de te dire « Hey, j'existe », elle va t'envoyer des notifications en permanence, elle va essayer de... Donc, on a aussi le fait qu'on n'est pas un écosystème sain où tu as quelques acteurs qui dominent, fait qu'on a aussi autour de ça des pratiques qui sont liés à la croissance rapide et au fait qu'il faut être très gros, qui font qu'en fait, on est devenus prisonniers de ce système et nos vies sont devenues impossibles.
Ah, d'ailleurs, il y a un petit truc sur l'iPhone pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. Il y a un menu où quand tu fais un triple clic sur le bouton Home, tu peux le passer en noir et blanc. Ce qui fait que ça enlève une énorme partie de... Parce qu'en fait, ça fonctionne sur les neurosciences. Évidemment, tout ce que tu décris, c'est de la neuroscience.
C'est comme les crèmes glacées, en fait.
Et en fait, de le mettre en noir et blanc, du coup... T'as moins envie de cliquer parce que tu vois pas les notifications, etc. Donc ça peut être un tip pour moins cliquer.
Moi j'ai enlevé les notifications, d'email. J'essaye de limiter l'email au strict minimum. C'est compliqué hein, parce qu'après t'as aussi cette idée que nous on le sait bien parce qu'on a eu des présences sociales. C'est qu'il faut que tu existes en permanence. Il faut que si tu tweets pas un truc intelligent, t'as l'impression que ton statut social diminue. Si tu likes pas tu souhaites pas les anniversaires de tes amis, ils ont l'impression que tu les aimes plus. Donc on a créé en fait tout un ensemble d'écosystèmes d'actions qui sont très stressantes parce que finalement tu n'as plus l'équilibre. On est toujours en position où en permanence on a peur d'avoir oublié quelque chose, peur d'avoir mal fait, peur de d'oublier. T'as pas vu cette série, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc t'as l'impression en fait que ta vie est contrôlée par la machine. Alors qu'en fait, si on inventait le logiciel différemment, on devrait être au centre et ces machines devraient être là normalement pour nous servir.
Justement, parce que j'ai quand même du mal à saisir. Alors du coup, pour toi, c'est quoi le monde c'est pas le monde idéal parce que ça n'a pas de sens, mais c'est un peu loin à discuter là tout de suite. Mais le web idéal, enfin, si c'est pas le web qu'on connaît aujourd'hui, alors je comprends cette idée de réduire l'impact des algorithmes, de réduire la neuroscience, mais qui sont des modèles qui sont capitalistes, parce que le but c'est que quand même ces boîtes gagnent de l'argent. Donc c'est pour ça qu'elles veulent absolument qu'elles.
Mais qui sont aussi des modèles qu'on va devoir réguler, parce qu'en fait, à un moment donné, tu peux dire, on peut modifier le comportement des gens. Mais quand on aura détruit toutes les démocraties d'Europe avec ça, on peut se poser la question aussi de la place du politique. C'est pour ça que tout à l'heure, je répondais avec la casquette d'entrepreneur, mais je pense que c'est la vision politique. Tout espace, quand tu régules l'espace privé, l'espace public, et tu deviens en fait un acteur important, on va devoir réfléchir à une forme de régulation, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est la haine en permanence, et t'as le droit d'être raciste, antisémite, tout ce que tu veux sur Twitter, c'est normal apparemment. Mm-hmm. C'est un peu, tu sais, cette idée aussi que le premier amendement, qui est une vision américaine où t'as le droit de tout dire. Alors c'est marrant parce que d'un côté, t'as le droit de tout dire et te mettre de la violence, mais en même temps, dès que tu mets un téton, les images sont algorithmiquement...
féminin,
évidemment, sont algorithmiquement enlevées. Donc il y a aussi des choix. Tu sais, Steve Jobs, quand il a fait l'Apple Store, il a dit « je veux pas de porno, je veux pas ça », il avait fait un choix. Après, on peut l'accepter ou pas. Et c'est vrai que parce qu'on a besoin d'interaction, parce que c'est bien aussi de stimuler la colère des gens, on a gardé un écosystème qui est quand même assez hargneux. Et ça a un des impacts sur la société. Donc, à un moment donné, il y aura aussi besoin de régulation.
Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas les gens qui sont hargneux et ça se reproduit dans le web? Je vais revenir à ma question sur le monde idéal, selon toi. Mais ouais.
Écoute, moi, je pense qu'à un moment donné, tu peux toujours mettre... T'as toujours ce moment où quelqu'un est en colère, tellement en colère... qu'après ça, quoi que tu lui dises de rationnel, la personne ne t'écoute plus. Et j'ai l'impression qu'une partie des arguments politiques, ça a été de mettre une génération entière de gens aux États-Unis, mais en Angleterre, au Brexit, qui sont en colère, pour plein de raisons, qui étaient des gens qui n'étaient pas forcément en colère avant, mais aujourd'hui, toute la rationalité n'imprime plus.
Mais ça, c'est typiquement, on en parlait tout à l'heure aussi, mais ça n'a rien à voir, mais c'est un peu la théorie de Noam Chomsky, typiquement, qui dit, en fait, divisé pour mieux régner, quoi. C'est la fameuse.
Ouais, mais c'est à un moment donné, ce qui est incroyable, on en parlait avec un ami, un jour, tu auras un programme politique où tu diras 1 million de choses différentes à 1 million de personnes, exactement ce qu'ils ont envie d'entendre, et tu ne pourras même pas savoir, puisque tu n'auras pas eu le même message que ton voisin. Le régulateur n'a plus les moyens de vérifier. Donc, si tu pousses la logique, on est face aussi à un problème, même vraiment politique. C'est dans quelle société veut-on vivre?
Alors, du coup, je te repose ma question.
Oui.
c'est quoi le monde idéal, slow web, selon toi?
Mais déjà, il faut revenir à des standards ouverts. Je pense qu'on a là, le premier problème que l'on a, c'est que les standards sont devenus fermés. Avant, tout ce qu'on a bâti, HTTP, HTML, enfin tous les standards du web sont devenus utiles et utilisés par tous. Et là, maintenant, on est revenu sur des plateformes fermées. Donc, il faut les ouvrir, voire forcer l'ouverture de ces plateformes. La deuxième, c'est l'interopérabilité des données. C'est-à-dire que tu veux être capable que tes données... aille où tu le souhaites. Ça veut dire que si demain des services un peu plus éthiques, de taille plus modeste, te disent je vais m'occuper de tes photos, tu as vu peut-être SnowMug.
La GDPR le permet, non?
Oui, la GDPR théoriquement le permet. Et puis l'autre chose, c'est qu'il va falloir réfléchir à une autre façon de développer les logiciels, moins addictifs, respecter en fait le temps de l'utilisateur, respecter l'attention de l'utilisateur, respecter sa vie privée, respecter son cerveau, c'est-à-dire ne pas tenter de manipuler.
Ouais. C'est mal barré. C'est...
Et quand tu regardes dans le foot, toi, t'as des vins naturels, t'as plein de gens qui sont des passionnés. Alors c'est pas toujours économiquement rentable, mais qui ont décidé à un moment donné de construire d'autres produits pour d'autres audiences.
Mais dans le foot, ce qui se passe, c'est que cet environnement de malbouffe existe toujours.
Ouais.
Simplement, c'est l'éducation des consommateurs qui a fait que leurs choix ont évolué. Donc c'est aussi pour ça que le bio a existé, c'est que quelque part il y a une demande. Donc peut-être que ça va se faire pas tant par les acteurs que par la demande, c'est-à-dire l'éducation des consommateurs qui vont faire un rejet. Peut-être à un moment donné ils vont comprendre que effectivement tous ces réseaux sociaux, c'est en fait tu te bats pour avoir des followers, mais ça sert à rien, hein, tu les emmènes pas dans ta tombe évidemment.
Ouais, c'était comment on appelait ça, le l'outil de scoring là que tout le monde utilisait.
Ouais, je me souviens plus du nom, mais oui.
Mais en fait il y a quelque
chose de nouveau. Technoratiste.
Voilà, oui, absolument. Je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un problème de santé. Ce qui a fait qu'on a, moi je me rappelle le jour où je suis passé au bio, j'habitais à San Francisco. Et j'ai compris que pour enlever la cire qu'il y a sur les pommes, il fallait utiliser de la javel. En gros, la même chose que tu utilises pour nettoyer tes chiottes.
Ouais.
Et là, je me suis dit, effectivement, il y a un problème. Donc, j'ai percuté. Ce qui est en train de changer, c'est que tu as plein de gens qui maintenant ont des enfants et qui se disent « Mais qu'est-ce que regardent mes enfants sur leur iPad ? Est-ce que j'ai envie que mes enfants soient manipulés ?» Donc, on commence à voir les impacts en termes de dépression, qui sont des chiffres hallucinants.
Il n'y a jamais eu autant de suicides.
Aux États-Unis. Et donc, je pense que par la santé, par ce problème de santé, les gens prennent conscience de ça après. Il va falloir trouver... Alors, c'est pas facile, hein, tu me poses la question, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est très difficile parce que tu as une partie qui est politique, tu as une partie qui est technique, puis tu as une partie anticoncurrentielle. C'est comment tu fais pour que d'autres acteurs avec des pratiques différentes puissent exister. En tout cas, aujourd'hui, c'est très dur. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur l'Apple Store, si tu n'es pas sur Android, si tu n'es pas, dans les top 10, tu n'existes pas. En plus, tu passes ta vie, le peu d'argent que tu as, tu le dépenses en pub Facebook pour espérer... Alors qu'en fait, la seule manière de réussir aujourd'hui, c'est qu'un type de l'Apple Store dise « Ah tiens, j'aime bien ton application, il te met sur le truc ». C'est comme ça qu'Evernote a cartonné à l'époque et ça n'a pas changé. Donc on voit quand même qu'on est dans un système assez arbitraire sur le...
Et alors du coup, ce podcast, il s'appelle Vlan. Donc à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte ? Ça me semble assez clair, mais je te pose la question quand même.
Écoute, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai trouvé que cette idée-là de faire un tech for good en invitant les sociétés qui ont les pratiques les moins éthiques de l'Internet, c'était un peu too much.
Ouais, c'est vrai.
Et puis surtout, alors c'est un grand sujet, c'est qu'en France, tu le sais, on a de très bons développeurs, hein, des gens qui ont développé d'ailleurs toutes les plateformes de l'iPhone à Google Cloud, au Kindle. Et on n'a jamais demandé à ces gens-là, en fait, de nous aider à inventer la France du futur. Parce que finalement, entre le modèle chinois qui est complètement... on est dans Black Mirror maintenant, où t'es noté.
Oui, tu peux noter les gens, bien sûr.
Et puis la vision GAFA qui contrôle tout, et tout est commercial, il n'y a plus d'espace véritablement privé. Ou de free will, je sais pas comment on dirait ça en français.
De liberté. Bref.
Est-ce qu'on peut pas inventer un modèle intermédiaire, un modèle où t'as envie de vivre aussi, et surtout un modèle où les démocraties, ou qui soit compatible avec les démocraties telles qu'on les voit aujourd'hui. J'ai pas moi envie de vivre dans un modèle à la chinoise ou dans un modèle oligarchique comme aux US, où en gros, dès que tu fais quoi que tu fasses, quoi que tu produises, devient une donnée monétisable, réutilisable. Donc il y a forcément une troisième voie et je pense que l'Europe doit se bouger les fesses et la construire.
Super. Merci beaucoup, Tariq.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.